Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans La Grande Librairie. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'épreuve du confinement ? À quoi ressemblera le monde de demain ? Sera-t-il d'ailleurs si différent ? Pourrons-nous nous y adapter ? Et puis avec quelles conséquences sur nos vies quotidiennes ? Mais surtout, surtout, prendrons-nous enfin conscience que la crise sanitaire actuelle s'encastre dans une autre crise, encore plus grave, la crise écologique ? Vous avez perdu la boussole ? Vous avez le sentiment parfois de naviguer à vue ? Une solution ? Les livres, ceux de mes invités ce soir. J'accueille pour débuter cette émission Boris Cyrulnik et Bruno Latour. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver sur ce plateau, Boris Cyrulnik, et d'accueillir Bruno Latour. Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre. Vos livres, et notamment vos livres sur la résilience, sont traduits dans une quinzaine de langues. Vous décloisonnez les disciplines de livre en livre. Tout comme Bruno Latour, philosophe, sociologue, anthropologue, dont les ouvrages sont traduits dans le monde entier et rencontrent un succès impressionnant. Où suis-je ? Demande Bruno Latour. Où suis-je ? C'est le titre de votre nouvel essai qui vient de paraître aux empêcheurs de penser en rond. Et à cette question « Où suis-je ?», j'ai eu le sentiment que Boris Cyrulnik répondait par « Où allons-nous ? » En quelque sorte, peut-être le sous-titre de votre nouveau livre qui s'intitule « Des âmes et des saisons, psycho-écologie » et qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors, ce sont deux ouvrages très clairs qui se répondent, croisent l'histoire, la philosophie, les sciences, les contes et les sagesses et proposent une réflexion stimulante sur l'époque actuelle, auquel j'ajouterai, si vous me le permettez, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, un autre livre signé Lucie Taïeb, excellent, et qui s'intitule « Fresh Kills, recycler la terre ». Lucie Taïeb est à la fois poète, traductrice, romancière, et son livre raconte la métamorphose de l'une des plus grandes décharges du monde en un parc verdoyant construit au-dessus des déchets. Elle nous rejoindra tout à l'heure, car son récit illustre et prolonge admirablement, à mon sens, les propos de vos deux ouvrages. Avant de se plonger ensemble dans les leçons du confinement et puis d'affronter les moyens de s'adapter à la crise écologique, à la mutation écologique, j'aimerais que nous fassions plus ample connaissance, si vous le voulez bien. On a un petit peu de temps, tous les trois, ce soir, ensemble. Bruno Latour, comment le philosophe que vous êtes, comment et pourquoi le philosophe que vous êtes s'est-il intéressé à la science ?
Tous les sujets qui nous intéressent, que ce soit Boris Cyrulnik ou Madame Taïeb, ou le Covid, ou l'écologie, passe par la médiation des sciences. Donc, ça serait très étrange de prétendre parler du monde dans lequel on est, ou même de la société dans laquelle on est, sans passer par les sciences. J'ai commencé avec Pasteur, et Pasteur était évidemment un des bons moyens d'aborder des questions concernant les microbes, dont nous subissons quelques effets en ce moment. Et on comprend bien que sans le pasteurisme, sans toute l'infrastructure de sanitaire, ces choses seraient inconnues, de même que la question du réchauffement climatique ne serait pas compréhensible sans les sciences. Mais moi, j'étais en Afrique, tout simplement, travaillant et apprenant l'anthropologie, et on me disait des tas de bêtises sur les Africains, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si on étudiait les scientifiques de Californie, puisque j'avais un contact avec la Californie. À l'époque, la Californie était un endroit tout à fait mirifique. Et je me suis dit, mais si on étudiait les scientifiques avec les mêmes méthodes anthropologiques, qu'est-ce qu'on dirait d'eux ? C'est-à-dire, est-ce qu'on les doterait de capacités extraordinaires ? Ou bien est-ce qu'on s'apercevrait que c'est un métier avec des capacités qui dépendent de toute une série de circonstances tout à fait pratiques, qui fait qu'on peut avoir confiance dans ce qu'ils produisent, mais à condition de s'intéresser au mode de production, à l'ensemble des conditions pratiques avec lesquelles les scientifiques travaillent. Donc j'ai proposé qu'on passe d'une version « la science » de nulle part, disons, science from nowhere, comme on dit en anglais, et d'essayer de donner de la science une version scientifique, finalement, matérialiste, réaliste, empirique, disons. Voilà. Et c'est un peu mon projet pour le droit ou pour des tas d'autres sujets. Je m'intéresse à faire du terrain, parce que les questions philosophiques doivent être traitées, d'après moi, de façon empirique.
Et pas seulement dans le ciel des idées. Alors vous, Boris Cyrulnik, vous aussi, hein, vous avez fait une incursion du côté des sciences. Je me souviens que vous m'aviez dit, je crois que c'était sur ce plateau, que le jeune neuropsychiatre qui était en train de faire des études avait choisi l'éthologie, c'est ça, le comportement de la science, la science du comportement des animaux, pour se désennuyer. C'est-à-dire que vous vous ennuyez avec les hommes et vous vous désennuyez avec les animaux ?
C'est presque ça. C'est que les animaux posent des problèmes humains fondamentaux. Et les animaux permettent de c'est un trésor d'hypothèses. L'éthologie, les animaux, pourquoi est-ce que la sexualité existe chez les animaux ? Comment ils s'organisent ? Comment ils communiquent ? Et ça nous a permis de découvrir le monde préverbal. Avant l'éthologie, on pensait qu'en dehors de la parole, il n'y avait pas de pensée. On m'apprenait, à la fac de médecine, un bébé qui ne parle pas ne peut rien comprendre. Or, on sait maintenant, grâce à l'éthologie, de l'éthologie animale et l'éthologie humaine, on sait que les bébés, bien avant l'âge de la parole, comprennent une foule de choses et communiquent extrêmement bien, mais c'est une communication préverbale, exactement comme les animaux. Et la parole crée un autre monde, c'est le monde de la littérature, c'est là qu'on habite. Mais avant d'habiter le monde de la parole, il faut qu'on ait les bases, et les bases sont proches du monde animal.
Vous avez raconté hein, notamment comment c'est l'étude du comportement des goélands qui vous a permis de comprendre la parole des bébés prématurés.
Mais oui.
En tout cas, les cris.
Par les cris, eh oui. Les goélands sont très bavards et ils ont une quarantaine de cris. Vous savez qu'avec une quarantaine de cris, on peut en dire des choses.
Hein. C'est un langage.
Mais ce n'est pas des mots. C'est un langage, c'est structuré. Les singes ont des cris encore plus structurés.
On a un lien en singe entre les deux.
Votre point commun, c'est le singe.
Ah ben, j'en sais beaucoup moins que lui, mais on a une intersection.
On s'est rencontrés chez les singes.
J'ai suivi des babouins, un groupe de babouins au Kenya qui est étudié par une de mes amies, et ça a été une révélation. Je n'ai pas fait une carrière comme Boris, mais ça, pour moi, ça a été une révélation extraordinaire de pouvoir suivre pendant plusieurs semaines un groupe de babouins, et il se trouve que ce groupe de babouins étudié par une collègue américaine qui s'appelle Shirley Strum est toujours étudié 35 ans après. Donc on a un suivi, disons, longitudinal et absolument extraordinaire de l'ensemble des conditions écologiques et sociales. Elle sait pratiquement heure par heure ce que chacun de ces babouins fait, qui est le père et le fils, etc., parce qu'elle a fait des analyses d'ADN. Donc on a sur ce groupe de babouins une masse de connaissances que l'on n'a sur aucune autre espèce, je crois. Ne pas me tromper, parce que 35 ans de suivi de l'éthologie, et encore aujourd'hui, chaque matin, en mopède, il y a des chercheurs kényans qui vont regarder ce même groupe de babouins quand les éléphants ne viennent pas interférer avec leur étude.
Vous en parlez, Bruno Latour, avec des étoiles dans les yeux.
Oui, parce que ça a été une révélation, pour des raisons beaucoup moins fondamentales que Boris, mais de ce que c'est qu'une société dans lequel, justement, il n'y a pas de langage et il n'y a pas de technique. Parce que les babouins, encore moins que les chimpanzés, alors là, c'est zéro technique. Ils ont uniquement leur capacité sociale. Et donc, pour moi, ça a été une révélation parce que je me suis aperçu que nos sociétés, comme on le voit ici, sont extraordinairement équipées et lourdement équipées, alors que la base de notre socialité, qui est malheureusement impossible aujourd'hui avec le Covid parce qu'on ne peut pas se toucher, etc., si vous prenez, je crois que vous serez d'accord, Boris, avec ça, si vous prenez un groupe de babouins et que vous les isolez les uns des autres pendant le temps d'un confinement, comme nous le supportons, je pense qu'au bout de quelques semaines, ils deviendraient complètement fous. Parce qu'ils seraient incapables d'établir, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, et là, il y a quelque chose qui est important pour nous. On est au fond des babouins. Et on ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'épouiller. Ouais. Des chimpanzés, vous les séparez une journée, ils sont obligés de se retrouver le soir et de refaire les relations. Et nous, on n'a même pas le droit de...
Alors, on est d'emblée au cœur de nos questions, des questions qui vous préoccupent tous les deux. Finalement, en quoi décentrer notre regard ? Le neuropsychiatre qui s'intéresse à l'éthologie, mais aussi le philosophe qui s'intéresse aux sciences, aux sociétés. En quoi décentrer notre regard ? Par exemple, aller voir du côté des babouins ou des goélands nous permet de comprendre la condition humaine.
Eh bien, par exemple, Bruno vient de dire... Qu'auraient fait les babouins si on leur avait demandé d'être confinés ? La réponse est claire, leur cerveau se serait atrophié et leur comportement se serait autocentré.
Ce qui nous arrive à tous.
Et non, non. Ça nous arrive, mais nous, on a ce que n'ont pas les babouins, c'est-à-dire que nous, on peut lire pendant le confinement et on peut habiter un monde de représentation, alors que les babouins sont obligés d'entrer en contact, comme un bébé préverbal. Un bébé préverbal a besoin d'une figure d'attachement. Statistiquement, c'est sa mère. Ça peut être une autre femme, ça peut être son père, qui peut être une figure maternelle efficace, à condition de ne pas donner le sein. Où là, les hommes sont moins performants. Mais ça veut dire qu'un bébé a besoin d'une altérité pour se développer. Et cette altérité, c'est une altérité physique, physiologique. Et dès qu'il parle, l'altérité est provoquée par des représentations verbales. C'est-à-dire que nous, on est comme les babouins, on a besoin de la stimulation des autres, sinon notre cerveau s'altère. S'altère extrêmement vite, en quelques heures. En quelques heures.
Sans l'autre, notre cerveau s'altère. Ça c'est le neuropsy qui parle.
Oui, c'est le neuropapsy. C'est le neuro qui parle, puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on voit qu'un cerveau privé d'altérité s'atrophie. Il y a des zones cérébrales qui s'atrophient et que...
Boris, un humain aussi, sans relation et sans lecture, ça dure combien de temps, alors, le cerveau, avant de s'atrophier?
Ah, mais quand on parle
si on ne vous parle pas, si on ne lit pas, c'est une vraie question, ça.
Oui, si
combien de temps est-ce qu'on peut durer?
De l'isolement sensoriel chez nous, 48 heures. Au bout de 48 heures, les altérations commencent.
C'est ça le problème. Ça, c'est quand même assez impressionnant.
On dépend terriblement des autres, hein, pour notre bien et pour notre moins bien.
Bah, d'où la question qui est le titre de votre livre, en réalité. Où suis-je ? Oh là là, où suis-je ? Alors, vous racontez que ce titre, Où suis-je ? Titre de ce livre qui paraît aux empêcheurs de penser en rond. C'est un petit peu la question que se posent tous les héros de romans ou de BD, vous savez, après un coup sur la tête, on ne sait pas très bien où on est, où suis-je ? Après 48 heures, hein, sans lire, par exemple, avec Boris, on se dit, mais où suis-je ? Ce livre est un livre que je trouve absolument remarquable, Bruno Latour. Il fait suite, en réalité, à un petit livre que vous aviez publié il y a 4 ans et qui s'intitule « Où atterrir ?». C'est un livre qui a connu un grand succès, qui était publié aux éditions La Découverte. Alors, si vous voulez vous amuser, vous qui nous regardez ce soir, vous pouvez bien sûr lire le nouveau Latour, mais si vous voulez vraiment vous amuser, vous commencez par Où atterrir, 150 pages, et puis vous enchaînez avec Où suis-je. C'est écrit à la manière de contes philosophiques, dans un langage extrêmement clair, et pourtant qui pose et qui soulève plein de questions. Tiens, celle-ci par exemple, car vous écrivez, Bruno Latour, page 153 de ce livre, c'est très bizarre, je le reconnais, de vouloir tirer des leçons du confinement à répétition au point d'en faire une expérience presque métaphysique. En quoi le confinement peut-il être une expérience presque métaphysique ?
Il y a le confinement au sens, disons, de la pandémie. Et on subit, en râlant, mais on accepte quand même à peu près de rester chez nous par solidarité avec d'autres personnes pour éviter de les contaminer ou pour éviter nous-mêmes d'être contaminés. Donc on réapprend ce que c'est qu'une solidarité, disons, nationale et même globale, puisque le phénomène est à peu près partout. Et puis, il y a l'idée que si on sort de ce confinement, parce qu'on a enfin trouvé un vaccin efficace, etc., on n'est pas tout à fait sorti d'affaire. On va ensuite se trouver confiné, cette fois-ci, à l'intérieur d'une terre qui n'a plus les mêmes propriétés. Le monde n'est pas fait de ce qu'on croyait qu'il était fait. On croyait qu'on avait une terre infinie, dans un espace infini. C'est vrai, mais la façon dont on vit, nous et les êtres qu'étudie Boris, c'est une toute autre terre, beaucoup plus restreinte, confinée, enfin, qui a des limites que, malheureusement, nos amis scientifiques étudient de plus en plus, et à l'intérieur duquel il faut apprendre à vivre avec toutes ces, disons, ces interdépendances, dont le virus est en quelque sorte le héros, si j'ose dire. H-E-R-A-U-L-T.
Voilà, A-U-T.
Le sonneur de trompette, disons, parce qu'après, il y aura peut-être d'autres virus, mais le virus est là pour dire, mais attendez, on dépend d'un nombre d'êtres avec lequel on pensait en fait qu'ils étaient derrière nous et qu'on n'allait plus à s'en occuper. Donc ça, il y a une espèce d'apprendre à vivre confiné. Je reconnais que c'est un peu insupportable, hein. Mais c'est une expérience qu'il faut essayer de pousser à bout. C'est ça, une expérience métaphysique.
Mais alors dites-moi, pendant des années, que dis-je, des siècles, on nous a appris qu'il y avait d'un côté l'homme, de l'autre la nature, que nous étions finalement libres et autonomes, que l'univers était infini. Et vous êtes en train de nous dire tout l'inverse. Vous êtes en train de nous dire, l'autonomie, on va en parler, c'est pas si sûr. La liberté, oulala, va falloir la repenser. Et puis, quant à l'idée d'un univers infini, nous découvrons, vous l'avez dit, un monde fini. C'est ça que nous apprend le Covid.
Parce qu'on vit sur Terre. Le livre s'adresse aux terrestres. Il y a des gens qui imaginent qu'ils vivent dans un espace infini. et qui peuvent penser sans rien du tout et à l'extérieur. Mais nous, nous sommes des terrestres, nous vivons sur Terre.
Vous dites les terrestres, pas les terriens.
Oui, vous parce avez... que terrien, c'est le mot qu'on utilise quand des gens de l'espace viennent voir les... dans les séries de télé. Mais on n'est pas des terriens vus de l'extérieur, on est justement des terrestres, c'est-à-dire des gens qui sont confinés à l'intérieur d'un espace qui est finalement pas si large que ça, ce que j'appelle aussi la zone critique avec mes amis scientifiques des sciences de la Terre, et qui est quelques kilomètres en haut et quelques kilomètres en bas, c'est-à-dire une toute petite couche. Et ce n'est pas celle qu'on a quand on parle de la Terre. Quand on parle de la Terre, on a tout de suite le globe, on la voit depuis l'infini, et donc on se dit, bah, on a plein de places et on peut aller partout, et finalement, tout ce qui nous arrive est de très peu d'importance, et on fait des grandes déclarations sur l'histoire infinie, la petitesse des humains, etc. Sauf que dans cette petite zone critique-là, celle où on vit vraiment, nous, les cités industrielles, évidemment, notre influence, elle, est très importante. Un article récent publié dans Science, c'est tout à fait extraordinaire, ils ont pesé la biosphère.
Ils ont pesé la biosphère.
Oui, ils ont fait un calcul un peu grossier, mais assez intéressant, on a pesé la biosphère, tout ce qui est vivant, depuis vous avez un chiffre. Ensuite, vous pesez toutes les conséquences techniques de notre activité, c'est-à-dire ça, l'agriculture, l'ensemble des choses que nous modifions, nous les humains. Et depuis les 5 ou 6 dernières années, le poids de l'infrastructure matérielle, technique des humains est supérieur à celle de la biosphère. Donc ça, c'est ce genre de choses qui m'intéresse. C'est-à-dire là, on est dans un monde dans lequel, avant, on aurait dit, les humains, quelle importance, ils ont tellement petit par rapport à l'immensité du cosmos. Par rapport à la zone critique à l'intérieur duquel on vit, pour les terrestres, c'est quand même très important de connaître notre taille.
Qu'est-ce que ça inspire aux philosophes que vous êtes, le fait qu'aujourd'hui, on arrive à peser d'un côté la biosphère et puis de l'autre le poids de l'humanité, le poids de ce qu'elle produit, de ce que l'on fait aussi bien de terrible, et on parlera des déchets dans un instant,
qui nous donne
mais aussi de ce qu'on fait de bien.
Justement, c'est ça, être confiné au sens métaphysique, c'est-à-dire que ce monde à l'intérieur duquel nous pesons déjà autant que la biosphère, on va en faire quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre à l'intérieur de cet espace ? Il y a deux sens d'écologie, le sens qu'utilise Boris, c'est l'influence l'environnement a sur les humains. Le sens que j'utilise dans ce livre, et avec quelques-uns de mes amis, est évidemment lié, mais un peu différent, c'est le fait que les vivants, au cours de l'histoire, ont produit cet environnement. Ils ont produit l'air que nous respirons, ils ont produit la couche d'ozone qui nous protège, ils ont produit le marbre à l'intérieur avec lequel nous faisons nos roches, etc. Et donc ça change un peu la définition de notre situation. Tant qu'on s'adapte à un environnement extérieur, on a un type de situation. Quand cet environnement est le produit de l'activité des vivants à l'intérieur duquel nous sommes, nous, des vivants parmi d'autres, sauf que nous pesons beaucoup. Et donc, ça donne une responsabilité, un poids, disons, au sens propre du terme, qui est quand même assez ébouriffant à expliquer. Le poids de l'humanité.
Bruno, ça donne aussi un petit degré de liberté, puisqu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous, pour le bien et pour le pas bien. C'est-à-dire qu'on est un morceau de milieu. On avait l'impression que l'homme était par nature surnaturel, puisqu'il parlait, puisqu'il avait une âme, et on découvre maintenant que l'homme est intégré, c'est un morceau de nature, il est intégré dans la nature, mais grâce à la parole qui nous permet de vivre dans un monde de représentation, on a un degré de liberté. Donc on a un degré de responsabilité.
Oui, parce qu'il a un peu exagéré son degré de liberté.
Ah, vous trouvez ? L'homme a exagéré son degré de liberté.
On n'était pas supposé peser la même chose que l'ensemble de tous les vivants. Et ça, c'est un des chiffres intéressants. Il y en a des multitudes d'études sur toujours la même question, celle du réchauffement climatique. Vous avez un diagramme avec l'évolution de la température. À droite du diagramme, c'est en millions d'années. Au milieu du diagramme, c'est en milliers d'années. Et à la fin, c'est en années. Et la courbe fait ça à la fin. Donc, c'est-à-dire, il y a à la fois une histoire extraordinairement longue et une accélération absolument stupéfiante. Donc, comment être philosophe ? Comment s'intéresser à ce que c'est que la métaphysique et ne pas encaisser ce genre de données absolument stupéfiantes ?
Mais alors, justement, c'est la question qui se pose à la lecture de votre livre. Pourquoi la philosophie s'est-elle si longtemps tenue éloignée de cette question fondamentale ? On a un peu le sentiment, Bruno Latour, qu'aujourd'hui, vous en parlez, vous rencontrez un écho planétaire lorsque vous en parlez à travers vos livres, mais que cette question, la philosophie, a mis longtemps à s'en emparer. Pour quelle raison ?
C'est pas tout à fait juste. Il y a des tas de philosophies différentes et il y a une grande tradition au XXe siècle, depuis Bergson, depuis William James, depuis Whitehead. C'est pas vrai, il y a eu des tas de philosophies qui se sont intéressées passionnément à cette question de l'effet de la modernisation sur notre histoire intellectuelle. Seulement maintenant, ce contre-récit qui était en quelque sorte un peu limité à la vie savante, à la vie intellectuelle, elle est maintenant illustrée partout, dans la vie la plus quotidienne, par cette exigence absolument stupéfiante que, évidemment, aucun de ces philosophes n'aurait évidemment directement imaginé, qui est de maintenir la température à un certain type de degré. Personne ne s'était donné cette opération-là. Il y a des historiens qui vont vous dire, on s'est toujours intéressé au climat, oui, c'est vrai. On s'est intéressé à la destruction des forêts, oui, c'est vrai. Mais personne ne s'est dit, ma responsabilité, à chaque fois que je fais quelque chose, que je sois un industriel, que je sois un homme politique, c'est de maintenir la température de la Terre à l'intérieur d'une enveloppe, c'est ça le confinement, d'une enveloppe de 1,5
degrés. C'est ce à quoi vous appelez, hein, en réalité. Vous parliez tout à l'heure de la question de la liberté, Boris, et vous, de la question de la responsabilité. Diriez-vous que ma liberté et ma responsabilité vont de pair et qu'il s'agit, quelles que soient mes actions quotidiennes, oui, de réfléchir à ce qui permettrait de limiter le réchauffement climatique.
Parce qu'on a accepté, ou parce qu'on a modélisé et compris que la Terre n'était pas simplement le lieu où l'on se trouve, mais quelque chose que l'activité des vivants avait maintenu pendant des milliards d'années à un certain type, millions d'années d'ailleurs pour la température, à un certain type de température, à un certain seuil. Donc en un certain sens, avec plein de problèmes philosophiques, scientifiques, etc., il s'agit d'un thermostat dans lequel on est, nous, acteurs. Donc à partir du moment où vous avez cette définition-là qui pèse sur vous, c'est une toute autre définition de l'humain. On disait l'homme est la mesure de toute chose. Oui, mais si vous dites l'homme, il pèse autant que la biosphère, ce n'est pas tout à fait pareil. On disait regarder le ciel au-dessus de ma tête, mais si le ciel, vous le regardez maintenant, moi, quand je sors, je regarde le ciel, quand il fait beau, je me dis, c'est très embêtant, il fait beau, là, là, ça y est, encore un jour, un mois le plus chaud. Comment on vit avec ce genre de situation-là? Comment vous absorbez? On n'a rien, on n'a aucune, disons, aucun réflexe pour absorber ce genre de transformation-là. Et c'est pour ça que, où suis-je? J'utilise cette métamorphose du texte de Kafka, parce que je pense qu'on est effectivement alors dans cette espèce de rupture avec le passé, qui est à peu près aussi dur que ça.
Quand on se pose la question « où suis-je ?», il est toujours bon d'aller du côté de la littérature. Et quand un philosophe va du côté de la nouvelle, du roman, de la fable, alors là, on ne peut qu'être ravi. Ce petit livre, « La métamorphose » de Franz Kafka, vous écrivez qu'il vous semble être celui qui nous permet de répondre à cette question « Où suis-je ?». Mais pourquoi la métamorphose de Kafka vous semble-t-il être le livre qu'il faut absolument que nous lisions et que nous apprenions à lire? Parce que vous allez même très loin, vous dites « On l'a mal lu, on l'a lu à l'envers ».
Ben oui, parce que c'est des choses que Boris comprendrait très bien. C'est des problèmes de famille, hein, cette affaire de Kafka. Et vous savez, vous connaissez l'histoire.
C'est l'histoire de Grégor.
Grégor devient un cancrelat du jour au lendemain. Et ensuite, la nouvelle, c'est que ses parents ne le comprennent pas et lui ne comprend pas ses parents. Moi, ça fait 40 ans que je m'intéresse à cette question de l'écologie. Et je parle à des gens, mes parents, mes amis, mes proches même parfois, etc. Et ils me regardent comme le père de Grégor, comme ça, regarde un cancrelat. Je dramatise. Mais c'est pour les besoins de la chose. C'est-à-dire une espèce d'incompréhension sur le monde dans lequel on est. Il y en a un qui est dans un monde d'avant, enfin, au sens propre du terme, c'est-à-dire le père, la mère, la sœur, etc. Et puis, il y a le cancrelat qui essaye de dire, mais attendez, on est dépendant d'une multitude de choses, et même les mots que j'utilise, la façon dont j'essaie de vous parler, vous ne comprenez pas ce que je dis. Et j'ai, à chaque fois que je parle de ces questions, on n'est pas dans le même lieu. Ce sont des choses évidentes. Il suffit d'ouvrir les journaux scientifiques pour s'en apercevoir. C'est une multitude de données sur la question, disons, du climat, etc. Je fais des borborygmes.
On ne vous comprend pas, dites-vous. De quoi ce déni?
Non, ce n'est pas un déni.
Un peu, quand même.
Oui, il y a du déni au sens, il y a des gens payés pour... Mais ça, ils ont un peu disparu, cela.
Non, ouais. De quoi est-ce le nom? Ce refus d'entendre, de comprendre ceux qui, depuis des années, alertent, explique.
Mais parce que c'est pas un déni simplement. C'est pas. Il y a le déni au sens, disons, de gens payés pour ça. Mais c'est parce que c'est pas. C'est un problème de situation. C'est pour ça que j'ai écrit où suis-je. C'est un problème de savoir où on est. C'est un problème de localisation. C'est un problème précisément de terre. C'est-à-dire, il y en a qui pensent qu'ils sont là. dans un monde où précisément ces conditions ne se posent pas, comme les parents de Grégor, ils sont dans un certain monde, la Prague de l'avant-guerre. Et il y a des gens qui se disent, mais non, on est dans un autre monde. C'est si vous voulez, je sais pas moi, Trump d'un côté et Greta Thunberg de l'autre, si on veut caricaturer. C'est pas les mêmes mondes, c'est ça la différence. Mmh. C'est pas un problème de déni cognitif, les gens sont pas devenus fous. Les gens sont parfaitement conscients, ils sont parfaitement capables de lire une fiche d'impôt, etc. Ils sont pas devenus irrationnels. Mais ils vivent dans un monde qui n'est pas celui dans lequel on est. Et donc, la chose étonnante que j'ai découvert en travaillant avec tous ces scientifiques, ce que j'appelle les scientifiques des zones critiques, c'est que la compréhension de la matérialité du monde dans lequel on est, celui de la Terre des terrestres, pas la Terre vue de l'extérieur, en fait, elle est très peu partagée. Si on parle de zones critiques, ça concerne quelques centaines de scientifiques.
Bruno, il y a déjà eu des révolutions de pensée comme ça. C'est le corps était inobservable. On n'avait pas le droit de faire une dissection. C'est parce que c'était un blasphème de disséquer un corps humain. Arrive un gars qui dit il y a le corps d'un côté et l'âme de l'autre. L'âme, on n'y touche pas. C'est sans substance et sans étendue. Et le corps, on peut le disséquer. Et à ce moment-là, le naturalisme, il y a eu l'opposition entre les naturalistes qui disaient « mais le sang circule, on peut faire des expériences ». Ça a été le point de départ d'une démarche expérimentale pour étudier l'homme. Et puis, beaucoup de gens étaient choqués en disant « mais non, l'homme est par nature surnaturel, l'homme tombe du ciel, il a été créé, donc on ne peut pas l'observer scientifiquement ». Et beaucoup de philosophes ont été condamnés, hein, pour ça il y a eu Hobbes qui a été condamné, parce qu'il voulait faire des observations naturelles. Donc je crois qu'on est en train de vivre maintenant une autre révolution de pensée, c'est-à-dire que maintenant on est en train de découvrir ce qu'on est en train d'échanger, c'est-à-dire que la bande passante, là où on est autorisé à vivre, si on descend un peu, on meurt de chaud, mais si on monte un peu, on meurt de froid. Et on a juste une toute petite bande dans laquelle on peut vivre, et cette petite
bande... C'est la zone critique qu'évoquait Bruno Latour ?
Voilà. Mmh. Et cette petite bande, on est en train de l'empoisonner. Donc, mais en revanche, la métaphore prendre Kafka et la métamorphose, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ce n'est pas une crise qu'on est en train de vivre, c'est une catastrophe.
Bruno Latour dit que ce n'est pas une crise, c'est une mutation.
Métamorphose, mais oui, c'est le mot métamorphose.
C'est la définition de catastrophe. Cata, coupure, strophine, je prends le virage, j'en redémarre, mais autrement, si je redémarre. Alors que crise, c'est je parle, je perds connaissance, je convulse, je me relève et je finis ma phrase. Ça, c'est la crise. Alors que catastrophe, il y a une coupure et je prends un virage. Et si je veux survivre, il faut que je vive autrement. C'est-à-dire qu'après la pandémie, on sera obligé de tout repenser. Ou alors si on remet en place les mêmes processus, ce qui s'est déjà fait, hein, si on aura le siècle des virus comme il y a eu le siècle des pestes. Comme il y a eu les siècles des pestes. Tous les ans, tous les trois ans, une bactérie venait, et le 14e siècle, un Européen sur deux était régulièrement tué.
Tout repenser, c'est exactement ce à quoi vous nous invitez. On a compris la réponse, un élément de réponse à la question « Où suis-je ? » Vous nous l'avez parfaitement expliqué. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question que vous posiez il y a 4 ans. Où atterrir, si possible, sans se cracher, Bruno Latour ? Parce qu'atterrir, c'est une chose, mais atterrir en bon état, c'en est une autre.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter que si M. Latour publie un livre « Où atterrir ?» et ensuite « Où suis-je ? » il faudrait peut-être lui acheter un GPS plutôt pour qu'il sache où se retrouver.
Ça prouve le sens de l'humour de vos lecteurs.
Exactement. Où atterrir, c'était un peu quand même encore, c'était au moment de l'événement Trump, disons. Oui. C'était essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe pour on était quand même encore en train de sortir du hors-sol, disons, et de se rapprocher.
Mais est-ce que le Covid ne repose pas la question exactement dans les mêmes termes, en réalité ?
C'est un crash, le Covid. Et oui. Comme le disait Boris, c'est une situation dont malheureusement, on risque de le considérer comme une crise, justement. Et donc de dire, on passe à autre chose après, une fois que c'est sorti. Alors que c'est effectivement une mutation, plutôt le rappel d'une situation qu'on a connue pendant des millénaires, c'est qu'il faut vivre avec cette espèce de balance très, très complexe des virus. La démonstration admirable qu'il est en train de nous fournir, qui fait qu'on n'arrive pas à en parler de crise, c'est qu'il mute. Encore jusqu'à pratiquement il y a un mois, on pouvait dire, on en sort. Mais on voit
que lui-même est en métamorphose.
Oui, il est en train de faire son boulot, il fait son boulot de virus. En plus, il a une chance qu'aucun, je crois, Boris, qu'aucun virus n'a jamais eu. C'est-à-dire une expérience de milliards de gens, tous pareils, avec des conditions de vie différentes, Donc c'est idéal pour un virus.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les scientifiques se divisaient entre les fixistes. J'ai la vérité, puisque c'est mathématique. L'homme est mathématisable, donc j'ai la vérité. Et d'autres qui disaient, mais non, la Terre change, l'atmosphère change, l'homme change, les pensées changent. Tout change, on est obligé sans arrêt. Ce qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on sera demain. Et le virus, là, nous oblige à faire ce mouvement catastrophique. C'est-à-dire, ou bien on recommence comme avant, ou bien on invente une autre manière d'être sur Terre.
À un moment, d'ailleurs, Bruno Latour, vous écrivez, on est passé de la liberté d'inventer, c'était le monde d'avant, à l'obligation d'inventer. Ce sera ça, le monde de demain ? L'obligation d'inventer ?
Et ce qui m'intéresse, c'est de détacher la question écologique de son incertitude vis-à-vis de la technique.
C'est-à-dire ?
En se disant, c'est la technique qui nous a foutu dedans, et donc il faut essayer d'être à travers moins de technique. Alors que cette zone critique, qu'on appelle Gaïa, en fait, mais le nom ne sera pas prononcé, peut-être.
Parce que prononcer le nom, parce que dans la redéfinition,
ça pose des problèmes compliqués.
On va prendre les terrestres à la place des terriens. Vous dites également la nature. Oh non, la nature, c'est trop... Non,
Gaïa, c'est la version...
Gaïa plutôt que la nature.
Voilà, parce que Gaïa, c'est local. La nature, on ne sait jamais de quoi on parle quand on parle de nature. On parle de l'infini aussi bien que du centre de la Terre, etc. Gaïa, c'est juste justement cette petite couche qui a été rendu habitable par l'activité des vivants.
Donc en fait, la nature dans laquelle l'homme se meut, appelons-la Gaïa plutôt que nature.
Oui, parce que justement, elle a la différence essentielle, c'est que Gaïa, c'est des vivants. Et c'est là le résultat de l'activité des vivants. Tout ce que vous voyez ici, il n'y a pas une chose, un détail de ces choses qui ne soit pas l'activité des vivants, en l'occurrence des humains. Mais quand vous êtes à la campagne aussi, il n'y a pas un détail d'un paysage à la campagne qui soit le résultat de l'activité des humains, y compris l'atmosphère qui est au-dessus de votre tête, qui est maintenue par les bactéries depuis des milliards d'années. C'est ça qui change les choses.
Bien sûr, même les animaux sont dénaturés. Les animaux, même les vaches qu'on voit, on les a fabriquées. Les chiens sont humanisés. Donc même les chats sont humanisés. Ils ne miaulent. Les chats ne miaulent que dans un monde humain. Dans un monde interchat, ils ne miaulent pas. Sauf quand il y a une bagarre ou quand il y a la sexualité. C'est-à-dire qu'on a humanisé les animaux qui vivent avec nous. Donc on a tout humanisé, c'est-à-dire on a exploité tout ce qui était autour de nous et maintenant on l'a transformé. On est obligé de s'adapter à ce qu'on a transformé.
Alors l'adaptation va passer, vous le disiez tous les deux, par repenser, réinventer. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces derniers mots. Vous avez proposé, vous Bruno Latour, dans ce livre, vous proposez une opposition que je trouve très très stimulante. J'aimerais que vous nous la... préciser un tout petit peu. Vous dites, arrêtons de penser en catégories, ça vous touche aussi, hein, Boris Cyrulnik. Il n'y a pas d'un côté, par exemple, les riches et les pauvres, il y aurait plutôt les extracteurs et les ravaudeurs. Belle expression, les ravaudeurs.
Oui, enfin, il y a toujours les riches et les pauvres. Malheureusement, on est toujours dans le système des injustices et qui se sont extraordinairement agrandies et exacerbées précisément à cause de la crise écologique. Mais en plus, il y a un autre débat des conflits à l'intérieur de ces autres conflits qui portent des ans sur l'habitabilité. Au fond, c'est une nouvelle question. Ce dont on parle, c'est ça. C'est est-ce que la Terre est habitable ? Les petits jeunes qui manifestent pour extinction, rébellion, c'est cette inquiétude-là. Mais moi, est-ce que je vais habiter où ? Est-ce que je vais être capable de prolonger les conditions d'habitabilité de la planète ? C'est quand même une question que, malgré tout, on ne se posait pas dans ces termes avant. Malgré toutes les choses qu'on a dit sur la longue histoire de la conscience environnementale. Donc ça veut dire que la question de l'invention, de l'innovation, de l'émancipation, de la liberté, de la jouissance, de la prospérité, doivent être calibrées avec une autre question, est-ce qu'on maintient les conditions d'habitabilité de la planète ? Et du coup, ravauder, j'ai cherché longtemps le bon terme, parce que me paraît assez... capable de capter ce qui se passe, c'est pas sans lien avec la résilience d'ailleurs.
Ah oui.
C'est se dire, mais est-ce qu'il s'agit de révolutionner à nouveau la planète pour aller encore plus loin, ce qui est une tendance de certaines personnes ? Est-ce qu'il s'agit de régresser et de devenir naturel, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens ? Ou est-ce qu'il s'agit de maintenir, de ravauder, donc de réparer les conditions qui rendent la vie habitable ? Je regardais dans Le Monde en vous attendant... ce soir, que tout un état de l'Inde est en train de basculer de la révolution verte à la révolution, disons, à l'agriculture bioécologique. un État entier. Il y a 20 millions de gens qui sont fermiers, qui sont en train de se transformer. Ça, c'est du ravaudage.
C'est du ravaudage. Ouais.
Parce que c'est pas dans la perspective, on fonce en avant et on modernise. Et ceux qui pensent qu'on a tort sont des réactionnaires. C'est ça qui a changé. Mm. Quand Macron a dit on fonce avec la CG5 et ceux qui n'y croient pas sont des réactionnaires qui veulent nous ramener en arrière, on sentait bien que ça marche plus, ça. Parce qu'on se dit, mais attendez. Non, on est obligé de ravauder l'agriculture, de ravauder les conditions de vie, de ravauder la science même, qui est massacrée, de ravauder l'université, de ravauder l'école. C'est-à-dire, ouais. On n'est pas du tout dans la perspective et de se dire on va continuer à innover massivement.
Dans une confiance alors et une supériorité, innover. Une suprématie de l'homme sur la nature. Vous écrivez, oui. page 165, en nous forçant à aller de l'avant, en rêvant de devenir des post-humains, en imaginant que nous allons vivre comme des dieux, ne voyez-vous pas que vous nous privez de la seule puissance de réorientation qui soit, tâtonner, essayer, revenir sur nos échecs, explorer.
Oui, je suis content que vous citiez cette phrase, parce que pour moi, c'est très important. C'est le mouvement qui change aussi. Donc, non seulement on change de lieu, mais on change de temps. Le temps où on était avant, c'était quand même le temps où précisément le drive de la modernisation, le grand mouvement de la modernisation allait nous emporter comme un flot, disons. Mmh. Et on allait surtout se concentrer dans une action commune. On allait tous aller vers le même sens. On allait tous se moderniser. Alors que maintenant, la métaphore est presque... C'est pour ça que j'utilise « égayer ». On va se disperser, au contraire.
Et surtout, donc, si je vous suis bien, c'est arrêtons d'aller tout droit.
Oui, il faut
arrêtons d'aller de l'avant. Dispersons-nous.
Mais je pense que c'est assez lié, Boris va nous le dire, mais avec à un niveau psychosocial, ce qu'on appelle résilier. Résilier, non.
Ça se dit, oui.
On peut dire résilier, mais résilier, ça change, c'est un autre mot.
Oui, résilier, on a un petit peu l'impression que vous résiliez l'humanité, hein, vous tirez un trait dessus.
Non, c'est-à-dire, il faut pouvoir prendre un pas de côté.
Oui.
Et pouvoir précisément prendre un autre mouvement.
Alors, Boris, déjà, les ravaudeurs, le mot vous plaît, j'imagine, ravaudeur. C'est un mot qui pourrait être sous la plume et dans les livres de Boris Cyrulnik.
Alors oui, c'est un mot, mais ça permet de faire la distinction entre l'évolution sans transformation, on s'adapte, on ravaude, et l'évolution avec transformation. Ça ne peut plus être comme avant, sinon on va répéter ce qui nous a mené à la catastrophe. Mmh. Donc on est contraint à la transformation, la métamorphose. Kafka, donc c'est une bonne métaphore. Et c'est déjà arrivé.
Ça a à voir avec la résilience, demandait Bruno Latour.
Alors... Oui, ça a à voir avec la résilience. Le mot résilience est parti d'ailleurs de la géographie et de la géologie. On dit que c'est parti de la mécanique, c'est pas vrai. Hein. Ce sont les géographes, ce sont les agriculteurs qui les premiers ont employé ce mot. Ils ont dit une terre, un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais pas comme avant. C'est plus la même flore, c'est plus la même faune.
La vie reprend, mais pas comme avant.
Sinon, si le sol n'est pas résilient, la vie ne reprend pas. C'est pour moi, neurologue ou psychologue, c'est le syndrome psychotraumatique. C'est fini. On est prisonnier du passé, on répète, on rumine, comme disent les gens, on ne s'en sort pas. Alors que, en revanche, la métaphore de la résilience des fleurs, c'est qu'il fait trop chaud. Donc les fleurs se déshydratent, se recroquevillent, et si la chaleur continue, les fleurs se transforment en fleurs épineuses. Donc les animaux sont obligés de se transformer aussi pour manger des épines. Donc il faut avoir les molaires carrés. C'est plus la peine d'avoir des incisives. Et on a une cascade de transformations comme ça, qui sont à partir d'un point de départ, coupure, cata, strophine, on a été obligé de changer de direction.
C'est assez joli, le prisonnier du passé, parce que ça va avec mon argument, c'est que cette idée d'innovation qu'on continue à nous vendre, et c'est exactement ça. On est prisonnier du passé, bizarrement, quand on dit qu'il faut de toute façon aller de l'avant.
L'innovation, paradoxalement, l'innovation, c'est le passé.
Non, il faut innover beaucoup plus. Ouais. Mais il faut innover dans des tas d'autres directions. Et c'est ça la difficulté.
Alors, lesquelles? Parce que, soyons concrets et précis. Est-ce qu'on peut se passer, par exemple, de l'économie? On a vu, d'ailleurs, notez-vous, que pendant la pandémie, tous les États de la planète ont réussi à dire, au nom de la priorité sanitaire, eh bien, l'économie est reléguée, pour ne pas dire stoppée. C'est possible de le faire pour la crise climatique ?
Ça fait partie des leçons du confinement, quand même, qui sont complètement imprévisibles. Mmh. À la fois, l'ordre dans lequel on classe les gens maintenant, les gens importants, les gens pas importants, ce n'est pas du tout les mêmes pendant le confinement et avant le confinement. La question de l'État, les questions de la dette, toutes ces questions ont été rouvertes. Donc on peut commencer à se dire, mais attendez, quand on définissait avant l'économie comme le seul cadre, disons, indiscutable de la façon dont on établit nos relations, dont on définit ce qu'on doit faire de notre sol, etc., si on peut l'enlever comme un voile d'un seul coup, quelle est sa valeur? Donc on peut reposer des questions intéressantes. Les questions que j'avais essayé...
On pourrait s'en passer, par exemple, de l'économie?
Complètement, parce qu'elle ne parle pas, encore une fois, de l'économie comme technique de gestion des marchés. Ça, c'est des tas de choses très utiles qui sont inventées là, comme le montre mon ami Michel Calon. Mais je crois qu'on peut se passer avec beaucoup de profit, si j'ose dire, du terme de l'idéologie, la métaphysique de l'économie comme seul moyen d'établir des relations entre nous. La définition même, et Maurice le montre très bien dans son livre avec cette idée d'un individu autonome qui ne serait dépendant de personne. Mmh. C'est cette invention qui sert encore d'idéologie de l'économie, de l'homo economicus, c'est un être de fiction, c'est un être qui n'a pas d'existence. Donc on peut l'imposer, mais on l'a imposé à force de faire des écoles de commerce, etc. Mais il n'a pas de... C'est pas comme ça qu'on vit. Mmh. Et brusquement, pendant le confinement, les gens se sont dit, mais attendez, je vis très différemment, moi, je dépends des tas d'autres choses. Je ne dépends pas simplement du virus, je dépends des livreurs de pizza, je dépends des soignants, je dépends des professeurs, je dépends de tout un tas de choses, de gens que je considérais avec un peu de mépris. Si on est capable de faire ces changements, c'est-à-dire qu'on se repose de nouvelles questions. Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui doit être lié à qui? Est-ce qu'on doit faire ci ou on doit faire ça? Qu'est-ce qu'on fait d'un champ? Qu'est-ce qu'on fait d'une usine? Donc, c'est ça des questions anthropologiques de base.
Et donc, il faudrait se les reposer aujourd'hui. Ben, c'est ça, Ravaudet.
Ce qu'on appelle l'écologie, finalement, n'est que la réouverture des questions que l'économie clôturait. Et je pense que c'est ce dont on s'est aperçu. C'est pour ça que quand j'ai proposé de dire, mais profitons du confinement pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait de notre... Quelles sont les activités que vous voulez suspendre et celles que vous voulez continuer? C'est devenu absolument évident pendant le confinement.
C'est votre cahier de doléances que vous avez lancé, vous avez proposé il y a quelques temps. Beaucoup d'ailleurs de maires de grandes villes ont repris ce cahier de doléances. Beaucoup. Il pourrait y en avoir d'autres.
Suffisamment.
Il y en a.
C'est-à-dire
à Lyon notamment.
Se poser des questions au fond, la question uniquement économique qui simplifie terriblement les termes ne permettait plus de poser. Et c'est ça qui est intéressant. On est à la fois dans une période de complète réduction de notre capacité de nous connecter entre nous, etc. On est, comme le disent mes amis, des zombies. On vit sur Zoom. Et donc, on vient des êtres... Un peu étranges. Des zombies. Et en même temps, au fond, sur tous les sujets, tout le monde est en train de réfléchir, ou peut-être c'est grâce à ça qu'on a le temps de lire aussi, que tout le monde est en train de réfléchir, mais je peux... réfléchir à nouveau à ces choses qui étaient interdites par la grande clameur qu'on appelait « il n'y a pas d'autre politique possible ». Ben si, il y a des politiques possibles. Donc en fait, on est dans une période d'ouverture de l'innovation, alors même qu'on est dans une crise dont la dimension pandémique est énorme et la dimension, disons, économique au sens banal du terme, c'est-à-dire l'organisation des ressources est abyssale et de plus en plus grande et en plus mondiale. Donc en fait, si vous faites le bilan, des leçons pour... C'est quand même assez passionnant.
Et c'est passionnant, c'est très stimulant d'ailleurs.
Il se passe un nombre de choses.
Ah ouais.
Jamais on n'aurait imaginé qu'une crise globale vous permettait de réfléchir à toutes ces questions en même temps. C'est ça qui est très passionnant.
Leçon du confinement à l'usage des terrestres, ça s'appelle « Où suis-je ?» aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Bruno Latour. Alors, pour comprendre la marche du monde, il y a aussi une chose qui est importante. Vous l'avez dit tous les deux, c'est la lecture et les librairies. Et particulièrement les librairies indépendantes. Voilà, ça tombe bien, elles sont ouvertes partout en France. Et justement, elles s'adaptent, les librairies. Cette semaine, Inès de la Motte-Saint-Pierre a poussé la porte de l'Amandier, librairie à Puteaux, qui vous offre quelques conseils de lecture. Thomas Auxerre, libraire à Puteaux. Les Grandes Marées, c'est le roman initiatique par excellence.
On va suivre un jeune adolescent. Lui, il est assez singulier. Il est passionné de tout ce qui touche à l'océan. Et puis, il travaille toujours avec lui un livre de Rachel Carson, la grande biologiste et océanographe américaine. Alors, on se prend un vrai shoot d'iode aussi. Hein. On est sur la plage, on touche des mollusques, il y a des algues. Voilà, on est vraiment les pieds dans l'eau. Ce qui est génial avec cette fable écologique, c'est qu'on parle aussi de l'océan et de sa préservation. Et en plus, c'est un livre qui va vous mettre définitivement de bonne humeur. En 177 avant Jésus-Christ, d'Eric Kline, nous sommes à la fin de l'âge du bronze en Méditerranée et Eric Kline se propose d'observer comment différentes civilisations vont s'effondrer. Alors pour ça, il y a plein de facteurs hein, qui sont évoqués, la guerre, la famine, les changements climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive avec humour à faire un parallèle avec notre monde contemporain. Moi, je le conseille depuis des années et je crois que ça va servir à plein de gens. Enfin, j'espère. Walden, c'est le classique, l'intemporel de la littérature écologique. En 1845, Thoreau va dans une petite cabane dans les bois, à côté de l'étang de Walden, pour méditer et se retirer du monde. Alors, il est confiné, hein, on pourrait dire, il est en tout cas loin des hommes, il va observer la faune, la flore, il va aussi beaucoup marcher. Walden, c'est une œuvre d'une grande profondeur, c'est aussi une réflexion sur le superflu, sur la richesse de nos sociétés, et puis ça pose la question du moment. Qu'est-ce qui est pour nous essentiel ? L'Arbre Monde, c'est le roman global, c'est le livre visionnaire. Le tour de force de Richard Powers, c'est de réussir à nous parler de notre monde à nous, là, contemporain, mais c'est aussi de nous parler des enjeux, de ce qui arrive au 21e siècle, de ce à quoi on va être confronté, tout ça à travers le prisme des arbres. C'est un livre qui va vous faire un peu chanceler dans vos certitudes, dans vos habitudes. On parle aussi du vivant dans son ensemble et on voit que tout est lié. C'est à la fois une encyclopédie et un roman magistral.
L'Arbre-Monde de Richard Powers, vous le connaissez, puisque si vous suivez cette émission, il est venu à plusieurs reprises. On avait été le voir dans les Smoky Mountains. Je dois dire, Bruno Latour, que c'est Richard Powers qui m'a parlé de vous en me disant, et encore pas très longtemps, il faut absolument, absolument donner la parole à Bruno Latour. Richard Powers, qui est peut-être l'un des, allez, on va dire pour moi, l'un des 10 plus grands écrivains au monde, vous considère comme étant celui qui aujourd'hui est capable de ravauder et de repenser les rapports entre les terrestres et Gaïa.
Je suis d'accord sur ce que vous dites sur Richard. Je pense que c'est un très, très grand écrivain. C'est aussi un très bon ami. Et je suis très heureux de partager le rapport entre ce que lui et moi sur le même, alors que lui est un vrai écrivain, moi je ne suis pas un écrivain.
Est-ce que les écrivains, les romanciers, les êtres de fiction peuvent apporter une contribution à la pensée écologique?
Ce livre-là est un grand livre de philosophie de la nature, ça c'est sûr. Et c'est aussi un grand livre politique, c'est ça qui est très intéressant. Mais lui a des capacités de dramatisation que, évidemment, j'admire avec beaucoup depuis pratiquement son premier livre. Donc, Richard Powers, pour moi, c'est la façon de se saisir des sciences d'une autre façon. Oui, c'est un très, très grand écrivain.
Vous l'avez lu, L'Arbre Monde, Boris Cyrulnik ?
Non.
Alors, je vous l'offre. Et je vous envie, parce que là, ça, c'est un roman absolument formidable, saisissant, et puis qui propose aussi un certain nombre de pistes, j'allais dire, de solutions, sans jamais trancher, puisque c'est l'histoire de 9 personnages, mais aussi de 9 solutions. Parfois différents, parfois antagonistes, et puis parfois qui fonctionnent. Alors tiens, justement, on va continuer de déconstruire avec vous, Boris Cyrulnik. On pourrait aller du côté des âmes et des saisons. Psychoécologie. Vous nous direz dans un instant, Boris Cyrulnik, ce qu'est la psychoécologie, cette approche. Ce livre paraît donc aux éditions Odile Jacob. Contrairement à ce que voudrait faire croire, alors, un individualisme réducteur, finalement, les êtres humains ne sont pas séparables de leur contexte, nous disiez-vous tout à l'heure, de leur milieu, de leur environnement, bref, d'une écologie. J'ai l'impression que le point commun, aussi, qu'il y a entre vos deux travaux, Boris Cyrulnik, Bruno Latour, c'est le refus de simplifier le réel, de la pensée fixe, critique du réductionnisme chez vous, Bruno Latour, critique de la pensée binaire chez vous, Boris Cyrulnik, et vous commencez par 3 pages qui m'ont ravi, où vous explosez les gens qui ont des certitudes avec ce que vous appelez le bonheur des perroquets. Qu'est-ce que c'est le bonheur des perroquets ?
Ah ben, si vous voulez avoir un bonheur facile, il suffit de réciter et de répéter la parole du maître. Vous aurez une promotion, vous serez admiré, vous n'aurez que des amis. Mais si par malheur vous avez une pensée personnelle, vous risquez de ne pas avoir de promotion, vous risquez d'être seul, d'innover, mais de rompre avec votre famille, avec votre contexte culturel.
Mieux vaut être le loup solitaire que le perroquet.
Alors, le perroquet, ça rend très heureux. Parce que les chorales de perroquets, c'est magnifique, tout le monde répète la même chose en même temps, mais on est ensemble, on est sécurisé, c'est très sécurisant de répéter la même chose en même temps que les confrères. C'est très sécurisant, mais ça permet de délirer. Délirer, ce n'est pas forcément un mot psychotique, hein, c'est sortir de la terre, sortir du délira, sortir du sillon. Donc il y a des délires logiques, très bien construits, très convaincants, mais complètement coupé de la réalité sensible.
On va prendre quelques exemples. Est-ce que vous diriez, par exemple, que les oppositions binaires, je ne sais pas moi, rationnel, irrationnel, homme, nature, nature-culture, sont des délires logiques, mais, oui. Mais des délires tout de même.
Mais oui, par exemple, la comparaison, la catégorie homme-femme, on sait depuis longtemps, mais maintenant c'est bien défendu, que c'est une gradation constante, qui dépend beaucoup des environnements. Chez les poissons, chez nous, les êtres humains, c'est pas on est homme ou femme. Quand on est enfant, on pense comme ça. C'est comme ça qu'on se fait des catégories, c'est comme ça qu'on commence à penser. Tout ce qui n'est pas grand et petit, tout ce qui n'est pas gros et maigre, tout ce qui n'est pas homme et femme. Mais dès l'instant où on donne la parole aux scientifiques, aux naturalistes, où on va sur le terrain, on se rend compte que c'est une gradation qui dépend du milieu. On peut être plus ou moins poisson mâle, plus ou moins poisson femelle. Et le premier qui a travaillé cette hypothèse, ça, c'est Freud. Et c'est le seul prix scientifique qu'il a eu, c'est le prix scientifique de la ville de Francfort, le prix Goethe, qui est un prix...
Oui, sur les anguilles, il vous racontait l'histoire dans le livre.
La sexualité des anguilles.
C'était la sexualité des anguilles. Tout le monde s'est préoccupé de la sexualité
anguilles. Vous aussi qui nous regardez, la sexualité des anguilles. Pourquoi la sexualité des anguilles, Boris Cyrulnik, est-elle si importante que vous lui consacriez un chapitre?
Parce que ça pose le problème de l'évolution et non plus le problème de la certitude. Les anguilles, on ne trouve pas de testicules chez les anguilles. C'est un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et Freud a disséqué 400 anguilles, et dans sa maison à Vienne, il a son anguillostome. Et j'étais avec des psychanalystes qui se sont intéressés au cabinet, mais personne n'a posé la question de cette machine qui était là au milieu de la pièce. C'était l'anguillostome qui a permis à Freud d'avoir son seul prix scientifique, qui est un prix prestigieux d'ailleurs. Et c'est important parce que on voit qu'on commence par le stade femelle, comme nous. C'est pas la femme qui est sortie de la côte d'Adam. Le sexe de base, c'est X, c'est-à-dire on est femelle, et dès le 14e jour, on se différencie progressivement et on devient mâle, mais selon le milieu, on peut devenir mâle très vite ou au contraire, ne pas devenir mâle, rester à des stades intermédiaires. Alors on peut faire l'observation chez les poissons, c'est facile, parce que les poissons, puis on peut les disséquer, les poissons c'est plus difficile de disséquer des hommes vivants, alors que les poissons, on peut voir, on peut faire des manipulations expérimentales. On a un gros mâle avec une collerette bleue, on l'enlève, et on voit qu'une femelle devient mâle à son tour. Donc c'est la pression, c'est la structure du milieu, c'est la même chose chez les babouins d'ailleurs, c'est la pression, c'est la structure du milieu qui différencie les sexes.
Vous proposez une lecture de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du vivant d'ailleurs, pas de l'humanité, au prisme de cet impact du milieu. Oui. Finalement, l'apparition de l'homme, et notamment de la domination, racontez-vous, est simplement une tentative de survie.
Alors la domination qui a caractérisé la condition humaine probablement depuis Monsieur et Madame Sapiens, peut-être même avant, la domination qu'on paye tous très cher, les femmes le payent cher, mais les hommes aussi le payent cher, eh bien, c'était la manière qu'on avait trouvé de faire du social en s'adaptant à un milieu violent. Et la violence qui a été valorisée par toutes les cultures était une valeur créatrice dans un contexte violent, violence de la famine, violence des animaux, violence des hommes entre eux, la violence était une valeur. Aujourd'hui, la violence n'est que destruction.
Vous écrivez quand même que la violence était faite pour survivre.
La violence permettait de survivre. Si les hommes n'avaient pas été violents, probablement l'espèce humaine aurait disparu comme elle a failli le faire.
Ce n'est pas une justification, c'est une explication.
Voilà. Ah non, ce n'est pas une justification du tout. Non, non. Ça nous a permis de survivre, mais à un prix humain très cher payé.
Vous posez cette question, est-ce que survivre, c'est s'épanouir?
Alors... On peut survivre. Par exemple, le délire est une forme de survie. L'hallucination est une forme de survie. On parlait de confinement. Hein. Il ne faut pas confondre le confinement et l'isolement sensoriel. Dans le confinement, les moines se confinent et ils ne sont jamais seuls parce qu'ils sont toujours avec la présence de Dieu. Donc, ils lui parlent, ils sentent sa présence, ils ne sont jamais seuls. Et pourtant, sensoriellement, ils sont isolés. Un enfant que vous isolez, il n'a pas cette ressource. Donc, son cerveau s'abîme très vite, très, très vite. Et alors, la première niche écologique, c'est le corps de sa mère, le ventre des femmes, où si la mère est stressée, elle sécrète les substances du stress qui passent la barrière du placenta que le bébé déglutit. Sauf que les substances du stress, c'est le cortisol, les catécholamines qui sont toxiques pour son cerveau. Si j'arrête mon raisonnement, là, vous allez être désespéré. Donc, je vais rajouter vite une phrase pour dire que dès qu'on sécurise la mère, le bébé recommence sa construction. Et là, on a un raisonnement écosystémique. On n'a plus un raisonnement linéaire. On n'a plus une cause provoque un effet. Mmh. On a
une latitude de cause.
Une convergence de causes qui provoque un effet. Hey. Si on voit un bébé qui arrive au monde avec une altération cérébrale, on dit son cerveau est de mauvaise qualité. Et on cherche à agir sur le bébé et sur le cerveau du bébé. Alors que si on tient un raisonnement écosystémique, le cerveau du bébé est altéré parce que sa mère est malheureuse à cause de son mari ou à cause de la précarité sociale, il faut agir sur la mère pour la sécuriser, ou supprimer les guerres, évidemment, ou supprimer la précarité sociale pour que la mère se sentant mieux, la mère étant sécurisée, devienne sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Donc c'est un raisonnement écosystémique, une convergence de causes, et les scientifiques ont à dire leurs mots, scientifiques de laboratoire ont à dire leurs mots sur chaque étape, parce que leur fonction, c'est une fonction réductionniste. Ils ne peuvent pas tout traiter en même temps. Ils sont obligés de faire une hypothèse, une méthode, une conclusion provisoire. Mais nous, praticiens, quand quelqu'un vient s'asseoir près de nous, il s'assoit avec son corps, son cerveau, sa famille, son histoire, ses croyances, et nous, on est obligés de mettre notre nez dans des disciplines différentes, ce qui n'est pas très scientifique, mais ce qui est très clinique. Et c'est la différence qu'il y a entre un biologiste de laboratoire qui étudierait la Terre et un laboureur qui verrait la Terre, qui la sentirait, qui marcherait dessus. Ce n'est pas la même connaissance.
Est-ce qu'on peut dire, Boris Cyrulnik, c'est un des chapitres de votre livre, que tout changement climatique a provoqué des bouleversements de civilisation et aussi de culture?
Mais oui. Alors ça, c'est... Ça vient des géographes. Hein. Je commence mon livre par une petite fable. Et ça vient les géographes démontrent que les hommes, les animaux, les cultures, la construction des maisons, l'imaginaire dépendent du contexte climatique. Si vous vivez dans un contexte climatique, un Éden sur Terre, vous allez être heureux momentanément. Mais parce que vous aurez de l'eau partout, des fruits partout, donc vous serez heureux et momentanément, parce que le bonheur qui dure, c'est très désespérant. Donc il faut se mettre à l'épreuve pour avoir un sentiment d'exister. Alors il monte sur la...
Vous opposez le bonheur des vallées au bonheur des sommets.
Voilà.
L'un n'est rien sans l'autre.
Et les deux sont accouplés. Parce que quand on monte sur les sommets de l'Everest... ça, c'est Jean-François Dombremas qui explique ça. Quand on monte sur les sommets de l'Everest, on est contraint de s'adapter à l'environnement, c'est-à-dire qu'il fait froid, il faut des rituels d'interaction, il faut construire des palissades pour les animaux, il faut les nourrir, il faut surveiller les enfants. Et si on monte encore plus haut, les rituels sont encore plus stricts. Et l'imaginaire n'est pas le même. On voit des ombres, on voit des yétis sûrement, alors que dans la plaine, on voit des combats de coqs, il y a des bals populaires. Donc les maisons ne sont pas les mêmes, les rites ne sont pas les mêmes, l'imaginaire n'est pas le même, et c'est le même peuple qui monte et qui descend, et qui change de rituel et qui change de valeur. Dès l'instant où on change de contexte, on change notre manière d'être physiquement, biologiquement, et on change aussi notre manière de penser.
Est-ce que ça change notre cerveau ?
Alors, ça change notre cerveau, ça change nos hormones. Par exemple, les filles qui montent au haut du haut, comme disent les Tibétains, les enfants, les petites filles sont réglées à 20 ans. les mêmes redescendent dans la plaine et sont réglées à 12-13 ans. En France, actuellement, il y a de plus en plus de petites filles qui sont réglées avant 10 ans. Et ce qui fait la modification du métabolisme des petites filles, c'est les substances dont on les entoure, les leurres endocriniens, les plastiques, le biberon, qui est bourré de leurres endocriniens, c'est un leurre femelle, qui accélère les règles, donc qui accélère le changement du corps et le changement de manière de s'adapter à ce milieu. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc on est vraiment sculpté par notre milieu, et notre cerveau aussi est sculpté par notre milieu beaucoup plus qu'on le croyait.
Puisque nous nous sommes adaptés, puisque nous avons franchi comme ça sur des millions d'années, ce qui nous séparait au départ de la violence des tigres à dents de sabre et autres prédateurs jusqu'à aujourd'hui, que la technologie est devenue, si ce n'est miraculeuse, du moins très précise, puisque le soutien de l'État, par exemple, est bien réel, hein, vous le montrez, ne serait-ce que par rapport à il y a encore 50 ou 70 ans. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance, et notamment chez les jeunes aujourd'hui, chez les adolescents?
Alors ça, c'est vraiment totalement contre-intuitif. C'est que les conditions matérielles s'améliorent. Et dans les milieux trop protégés, les adolescents découvrent qu'ils ne savent pas qui ils sont et ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils valent. Donc ils se mettent à l'épreuve. Et ils se mettent à l'épreuve de manière pas toujours adaptée, de manière parfois... Avant, toutes les cultures ont inventé des rituels d'accueil des jeunes qui sont des mises à l'épreuve, mais des mises à l'épreuve imprégnées de récits. La chasse au lion de Jean Rouf qui nous a marqué, qui a marqué notre génération. Tu as 12 ans, tais-toi, tu es petit, on ne t'écoute pas. Tu as 13-14 ans, tu es plus petit, tu n'es pas encore un homme, tu vas aller à la chasse au lion, tu vas partir la nuit avec un arc et des flèches, tu vas avoir peur, tu vas, s'il y a des sorciers, il y a des esprits qui vont vouloir te prendre, et il y a des lions qui vont te dévorer, mais on va te dire les formules magiques, on va te dire la danse, on va te dire ce qu'il faut faire pour que tu triomphes du lion. Quand tu reviendras, tu seras initié, et là, tu seras adulte, on écoutera ta parole. Or, notre culture a complètement oublié ces valeurs d'accueil des jeunes, donc ils se mettent à l'épreuve eux-mêmes de manière pas toujours habile, hein, pas toujours logique, avec des prises de risques mal calculées. Et on voit qu'actuellement, les adolescents, alors que leurs conditions matérielles n'ont jamais été aussi bonnes, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au bac. Les autres, c'était l'usine, les filles. Un ouvrier sur trois est une fille. 10 heures par jour, debout, dans le froid. Donc ces filles-là, je les ai entendues dire, à l'âge de, elles avaient 13 ans, à l'âge de 16 ans, elles disaient toutes, vivement que je me marie pour que je rentre à la maison. Dites ça à une jeune femme aujourd'hui, vous allez voir, ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Ça avait un sens il y a quelques générations, parce que le milieu, l'habitat, l'écologie, était totalement différente. Et les valeurs, donc, la hiérarchie des valeurs n'était pas du tout la même. Il fallait être dur au mâle, bien fait de ses membres, c'est ce qu'on disait des hommes. Il fallait qu'une femme mette au monde le plus d'enfants possible pour assurer la survie. Une femme qui ne mettait pas au monde des enfants n'avait pas de valeur sociale. Le sexe avait essentiellement une fonction sacrée, mettre au monde une âme pour adorer Dieu, et une fonction sociale. Mettre au monde un garçon de préférence pour travailler à la mine 15 heures par jour et pour faire la guerre. C'était des valeurs adaptées à l'écologie. Ce que je viens de dire là n'est plus du tout, enfin, dans notre culture occidentale, n'est plus adapté. Mais allez voyager un peu, vous verrez que ça reste encore.
Et en même temps, vous écrivez que le phénomène le plus surprenant aujourd'hui, je vous cite, c'est le déclin de la sexualité.
Et oui, ça c'est très étonnant. J'ai été invité.
À quoi vous l'attribuez, ce déclin de la sexualité?
Alors, je pense que parce qu'elle a changé de fonction. Avant, il suffisait, pour un garçon, il suffisait d'avoir une érection et de planter un enfant dans madame. Un roi qui ne roidissait plus, comme on disait, perdait sa fonction royale, puisqu'il ne pouvait plus assurer la descendance. Donc la sexualité n'était pas très compliquée, quoi. Mais les femmes, on leur disait, il ne faut pas bouger, parce qu'une femme qui bouge pendant l'acte d'amour est une femme qui n'a pas de vertu. Donc c'était écrit, ça, il n'y a pas longtemps encore. On écrivait des choses comme ça. Donc, et maintenant, on voit que la sexualité a un enjeu totalement différent. Maintenant, on fait 1,8 enfant par femme en France. En Espagne, en Italie, c'est 1,1. Ça va changer. Ça va changer la structure de la population. Ça va changer l'éthos, la hiérarchie des valeurs morales. Or, on voit qu'actuellement, la sexualité a beaucoup changé de signification. Ça ne sert plus à faire des enfants. Ça sert même beaucoup moins à tisser du lien, comme les hommes et les femmes de ma génération. La sexualité, c'était pour faire des enfants, mais c'était aussi beaucoup pour tisser le lien de l'attachement. Or, maintenant, c'est un contrat en CDD. C'est-à-dire qu'on s'entend bien, on reste ensemble, on s'entend un peu bien, mais on n'a plus de raison de rester ensemble. Donc la structure familiale est complètement changée. Et pour les hommes, l'enjeu de la sexualité devient tellement engageant, tellement lourd, que beaucoup d'hommes ont de plus en plus peur de la sexualité. Et on voit que, notamment au Japon, il y a un véritable phénomène de société où on m'a dit 30%, je ne garantis pas le chiffre, je dis ce qu'on m'a dit, 30% des garçons, maintenant, ont leur première relation sexuelle au Japon aux environs de 30 ans, alors qu'en France, c'est 17 ans et 3 mois. Mais ils ont peur de la sexualité parce qu'elle va me mettre à l'épreuve. Je ne suis pas sa hauteur à elle. Les filles se développent beaucoup plus rapidement que les garçons. Je ne suis pas à sa hauteur. Elle va me mettre à l'épreuve. Je préfère rester tout seul chez moi avec des tablettes et des écrans pour me désennuyer.
Évidemment, cette adaptation n'est pas nécessairement un progrès. Il va falloir dissocier aussi ces deux mots. Savoir s'adapter ne veut pas dire qu'on a progressé. Vous dites qu'il y a trois effets secondaires au progrès. La surpopulation, oui. La dilution affective et la perte de sens. Nous menacent-ils ces trois effets secondaires du progrès ?
Alors, il y a la dilution du lien. Il y a quelques générations, on était contraintes. Quand je suis arrivé au monde, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de caisse de retraite, il n'y avait pas de sécurité sociale. La seule solidarité, c'était le couple et la famille. Maintenant, si le couple a changé de fonction, si on s'entend bien, on reste ensemble, sinon on se sépare, en essayant de ne pas trop se faire souffrir. Donc le lien n'a plus cette fonction d'attachement, donc le tranquillisant naturel, c'est l'attachement. Si je me sens en familiarité avec vous, je suis bien avec vous. Si, au contraire, je ne me sens pas bien avec vous, je finis par avoir une boule là et là. Vous avez changé mes métabolismes.
Ah, c'est moi qui les ai changés.
Mais oui, si vous me sécurisez...
Je suis votre milieu.
mais oui, si vous me sécurisez, si je suis bien avec vous, je vais sécréter des endorphines, de l'ocytocine. Je vais me sentir bien parce que vous me mettez à l'aise. Si je sens vous m'êtes hostile, que je vois que vos gestes, vos mots parfois, mais aussi avant la parole, vos gestes, vous me méprisez. Je le vois bien, vous me méprisez. Je vais me crisper, je vais sécréter des substances du stress. Et au bout de quelques heures, mais peut-être même avant, ces substances du stress vont provoquer des constrictions sur mes muscles lisses. C'est de la biologie. Si vous me parlez gentiment, je vais sécréter l'ocytocine. Si vous m'insultez, je vais sécréter du cortisol et au bout d'un certain temps, je finirai par avoir le cerveau abîmé. Donc, vos mots modifient mon cerveau et mes émotions.
Bon, en ce moment, vous êtes ocytocine ou cortisol ?
Gros traitement, j'avais d'été.
Ouais, c'est ça. Non, ça va encore là maintenant. Je suis plutôt ocytocine, merci.
Voilà, c'est passionnant. Des âmes et des saisons. Psycho-écologie. Boris Cyrulnik, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors, avant d'accueillir Lucie Taïeb sur ce plateau et d'évoquer avec vous alors, une autre dimension, conséquence de cette surpopulation, peut-être aussi les déchets, mais aussi la mémoire, j'aimerais parler de notre grand concours de lecture à voix haute, puisqu'on a évoqué la lecture. Alors, si vous êtes enseignant et que vous avez inscrit une ou plusieurs classes à ce concours, si on lisait à voix haute, il vous reste une dizaine de jours pour nous faire parvenir vos vidéos sur le site Lumni, à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Vous avez jusqu'au lundi 8 février. Voici maintenant quelques conseils pour bien lire, pour mieux lire à voix haute et préparer vos élèves à la grande finale de ce concours qui aura lieu donc au mois de juin prochain. Conseils dispensés par une pensionnaire de la Comédie française que vous avez peut-être également vue au cinéma, c'est Pauline Clément.
Moi, en général, j'ai mon texte et j'ai un stylo. Et quand j'ai un mot compliqué, je le souligne. Comme ça, je sais que quand j'arrive sur ce mot, je me dis « Ah, j'ai souligné, donc je vais le lire plus lentement. » Les phrases très longues, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup stressée, une sorte de panique. Merde, la phrase est longue, comment je vais faire? Donc, je pense que pareil, se mettre un petit astérix, c'est un petit truc pour savoir que ça va être la phrase longue, c'est pas mal, comme ça on sait. On prend une grande respiration avant la phrase. Si on sent que les gens ont un peu envie de rigoler ou de sourire un peu, c'est bien de leur laisser le temps. Parce que si on dit une phrase qui est drôle et que les gens ont envie de réagir et qu'on enchaîne tout de suite sur la phrase d'après, on leur coupe leur réaction et ils sont obligés de vite s'accrocher pour entendre la suite. Alors que c'est agréable, autant pour celui qui lit que pour ceux qui entendent, d'avoir le temps de rigoler. Avec le stress, on peut avoir tendance à se recroqueviller sur soi et à lire comme si on lisait pour soi-même. Et il ne faut surtout pas oublier que c'est une lecture à voix haute, donc du coup c'est une lecture qu'on fait pour les autres et donc il ne faut juste pas les oublier.
Voilà, retour sur le plateau de la Grande Librairie, toujours en compagnie de Bruno Latour, Boris Cyrulnik et en compagnie de Lucie Taïeb. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes poète, traductrice, romancière, mais vous enseignez également les études germaniques, c'est ça?
Absolument, oui.
À l'université de Brest, je crois. Dans quel monde vivons-nous lorsque les déchets sont absents de notre champ de vision et pourtant omniprésent? Eh bien, c'est la question que vous posez dans un petit livre admirable qui tient à la fois de l'enquête, du reportage, du récit de mémoire, Fresh Kills, aux éditions La Contre-Allée. Alors, Fresh Kills, eh bien, c'est le nom de l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde. Elle est fermée depuis quelques années. Elle va être recyclée en parc. Un parc verdoyant, juste en face, il faut le citer, de Manhattan, de New York. Bruno Latour appelle les terrestres à explorer le sol où ils habitent, hein, c'est bien ça. C'est très exactement ce que vous faites, Lucie Taïeb, explorer le sol où nous habitons, dans ce petit livre qui m'a passionné. Vous écrivez que c'est un roman, Lucie Taïeb, qui vous a entraîné vers la décharge de Fresh Kills. Quel roman?
Oui, effectivement, c'est le roman Outre-Monde de Don DeLillo. Alors, Outre-Monde, c'est vrai, oui. Un roman assez exceptionnel qui balaye l'histoire, qui balaye l'histoire des États-Unis, 50 ans d'histoire des États-Unis, et dont les protagonistes, alors c'est aussi un roman pluriel, mais deux des protagonistes du roman travaillent dans une entreprise de gestion de déchets à un assez haut niveau. Et l'un de ces personnages se retrouve, alors que c'est une décharge qu'il doit aller visiter pour son travail, il se retrouve en face de cette décharge, presque par hasard. Et là, il y a une description vraiment magistrale de cette décharge. Et c'est un roman, Outre-Monde, qui parle aussi de la question de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on refoule, de tout ce que l'histoire des États-Unis rend visible, mais aussi de tout ce qui est souterrain. Donc,
et chez lui, d'ailleurs, en réalité, la décharge est presque la métaphore de toutes ces envies dont on n'a plus envie, écrivez-vous. Oui. L'endroit où viennent s'échouer toutes les passions, tous les appétits d'une nation qui est en train de se chercher. Rien n'est plus invisible que ce qui s'offre au regard de tous. Écrit Don DeLillo, c'est ça la décharge?
Alors c'est ça, et c'est déjà assez fou comme idée, donc qu'une décharge monumentale soit invisible. Ça, c'était la première étape de ma découverte. Quand j'ai appris que cette décharge qui apparaît comme le symbole de ce qu'on invisibilise, allait elle-même être recouverte et transformée en un parc verdoyant.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand on vous a dit, en réalité, voilà, parce que la décharge vient remplacer un monde, vous le racontez très très bien, c'est à Staten Island, donc l'un des cinq quartiers de New York, Staten Island qui est le moins touristique, le moins visité, tout à fait au sud, voilà, sur une carte de New York, vous avez Manhattan, le Queens, Brooklyn, et hop, en dessous, Staten Island. Et alors, tout au sud, vous avez Fresh Kills, qui était autrefois un petit village, qui est devenu, en 1948, je crois, c'est ça, une décharge pour 3 ans. Puis finalement, elle a duré 50 ans.
Effectivement, oui.
Quelle trace reste-t-il? Qu'est-ce que c'est comme sol, pour reprendre le terme de Bruno Latour? Un vieux village? Un vieux village devenu décharge? Un parc sur un vieux village devenu décharge? Qu'est-ce que c'est, cette décharge, pour vous?
Mais justement, c'est ce que j'ai essayé de comprendre et je n'avais pas une réponse univoque parce que la décharge, elle est aussi faite de tous les récits et le parc est fait de tous les récits qu'on va... Enfin, de toutes les manières qu'on va avoir de raconter cette histoire. Donc, pour les gens qui ont connu encore la nature bucolique avant la décharge, il y a cette mémoire qui est très ancrée et il y a eu un travail formidable d'anthropologues qui ont recueilli toutes ces mémoires justement. Donc je cite l'entrevue qui est faite avec une femme qui disait bon, ils peuvent bien mettre un parc, mais pour moi, ce sera toujours une décharge, parce qu'elle, elle a vu son environnement être détruit.
Vous racontez et la les odeurs, arrivée. Elle vous raconte oui. les odeurs, elle vous oui. raconte tout ce qui est relégué dans les marges, et ça vous permet un très beau passage sur cette folie hygiéniste, finalement, de nos villes propres. Je crois que Manhattan incarne bien aujourd'hui la ville lumière, propre, lisse, et puis dans les marges, loin. On a relégué ce qu'on ne veut pas voir. Qu'est-ce que ça dit de notre société pour vous, Lucie Taïeb ?
Encore une fois, la question qui m'a vraiment animée, c'est de comprendre comment on vit en sachant que les déchets existent, d'ailleurs pas forcément très loin de nous, avec cette espèce de conscience divisée, donc d'être dans des villes parfaitement propres, plus ou moins parfaitement propres, des services sanitaires qui fonctionnent bien. Et pourtant d'avoir dans un pan de sa pensée la conscience de l'existence de ces déchets. Et c'est cette espèce de conscience divisée que je suis allée interroger. J'ai moins des réponses que des questions ou après les impressions vraiment sensorielles, sensibles que j'ai pu avoir sur place.
Bruno Latour, que vous évoque ce récit, cette enquête, ce reportage.
Inévitablement, en lisant le livre de Lucie Taïeb, la décharge, il ne faut pas oublier que dans la métamorphose, il finit aussi à une décharge.
Ouais, c'est vrai.
À la fin, on finit par s'en débarrasser. Ouais. Et pour moi, évidemment, le fil entre la ville et le... On avait de nouveau le rapport entre les parents de Grégor et ce cancre-là dont on cherchait à se débarrasser. Mais ce qui m'a le plus étonné et intéressé au début du livre, c'est que ça part quand même de Berlin.
Oui.
Et pour moi, c'est un des grands enjeux. C'est-à-dire que partir d'un lieu qui est le lieu d'un musée sur des catastrophes qui ont eu lieu, et faire le lien ensuite avec tous les musées qu'il va falloir faire pour mesurer les catastrophes qui ont eu lieu sur, disons, la nature, pour simplifier les choses. Parce que, il faut peut-être que vous le racontiez, vous commencez par le
roman, par Berlin.
En fait, je commence par évoquer ce qui a été... Je suis chercheuse en littérature, au départ, c'est là ma formation, et je suis aussi donc écrivaine. Et j'ai commencé par travailler sur la question de la mémoire de la dictature argentine et de la mémoire de la Shoah dans des poèmes et sur ces questions de transmission de mémoire. Et donc, naturellement, mon parcours a croisé ce mémorial à Berlin, qui est un mémorial donc vraiment au cœur de la ville, composé de stèles et qui doit prendre en charge cette mémoire du génocide des Juifs d'Europe. Et donc, je me posais la question de savoir comment un lieu pouvait assumer une mémoire. Comment s'imbriquer...
Le rapport entre le sol, le lieu, la mémoire.
Exactement. Ouais. Cette imbrication-là que je retrouve après à Freshkills, puisque pour un événement tout autre, pour une catastrophe qui n'a absolument rien à voir, on se retrouve ici avec un parc. Donc, comme je le disais, il va falloir raconter l'histoire. Et... comment est-ce qu'on va transmettre la mémoire de ce qui est arrivé dans ce lieu ? Qui, au bout du compte, va avoir aussi le discours qui va pouvoir s'imposer sur le lieu ? Quel
discours
va prévaloir ?
D'autant que dans ce lieu, Freshkills, vous le racontez très bien, presque au moment où on entreprend de le fermer, en 2001, Freshkills devient le lieu où se retrouvent d'autres déchets, si l'on peut dire, les déchets du World Trade Center. Sauf qu'à l'intérieur de ces déchets, il y a évidemment les restes d'un certain nombre de victimes de l'effondrement des tours.
Je peux poser la question ? Il y a eu une alternative au parc, justement, en termes de mémorial ou pas ? Parce que le fait de faire un parc, c'est vraiment dissimuler l'ensemble de cette histoire, c'est la nier.
Alors,
il y a eu une alternative de dire non, on va laisser les déchets là, mais on va faire autre chose de plus astucieux. Non, probablement pas.
Il y a eu un appel à projet.
J'ai pas
examiné tous les projets, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'association qui prend en charge la promotion de ce lieu travaille avec cette mémoire, parce que c'est tellement énorme que ça peut pas être dissimulé non plus.
Ah bon, d'accord. Ouais.
Donc, il n'essaie pas de dire c'est un parc et ça n'a jamais été une décharge, ce serait un mensonge trop flagrant. Au contraire, ça s'organise de manière manière assez fine, donc où on laisse à la fois une place à cette mémoire de la décharge et en même temps on promeut le parc justement avec cette idée, regardez, c'est vrai, pendant 50 ans, pendant 53 ans, on a empilé ici des déchets, donc 29 000 tonnes par jour. Je vous entendais parler tout à l'heure du poids de notre présence. Voilà, c'est 29 000 tonnes. Ça rentre dans le calcul. Les 29 000 tonnes de déchets par jour. Donc voilà ce qui a eu lieu. Mais on peut recycler, on peut réparer.
On va vous en faire un parc.
Voilà, on va vous en faire un parc. Fini les mauvaises odeurs. Et la question qui se pose quand même, c'est où est-ce qu'ils vont maintenant, les déchets?
Alors où vont-ils? Vous dites, vous écrivez, ils mettent 30 à 50 ans à se décomposer. Ils sont en dessous de ces pelouses, de ces golfs, de ces cascades. Ce sera un Central Park de x10 d'ailleurs. Ce sera immense. Mais en dessous, alors, il y aura... Est-ce qu'on peut dire que c'est les stigmates?
J'emploierai peut-être pas ce terme. Donc en dessous, les déchets vont se décomposer, perdre du volume. Il y a après toute une ingénierie qui est présente sur place pour recueillir le méthane, pour recueillir l'espèce de fluide qui suinte des déchets. Mais les déchets qu'on continue à produire, qui eux ne disparaissent pas, c'est pas parce que la décharge disparaît que les déchets qui doivent être traités disparaissent. Eux, ils vont effectivement en Caroline du Sud et le problème est déplacé, pour ainsi dire.
Mais ce qui est intéressant dans le fait de prendre le déchet comme un terme à la fois littéraire et social, c'est justement ce raté. Nous ne savons pas en quoi en faire de ces déchets. Bizarrement, si on savait quoi en faire, c'est-à-dire si le recyclage était maximal, on ne parlerait pas de crise écologique, on ferait exactement comme on a toujours fait. C'est l'échec de ce recyclage qui est très intéressant. Et là, c'est ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça se passe à New York. Donc on a ce rapport incroyable entre la ville et le déchet. Et ensuite, il y a est-ce qu'on va beautifier, est-ce qu'on va... C'est pour ça que la position de l'écrivaine est
importante. Je voulais que vous m'expliquiez, qu'est-ce que ça veut dire ce verbe, beautifier?
Rendre beautiful.
Oui, c'est ça. C'est,
évidemment.
C'est intermédiaire entre le... C'est pas exactement du déni, c'est pas une célébration mémorielle.
Non.
C'est du ravaudage, mais c'est pas simplement du ravaudage, parce qu'en fait, on cache aussi beaucoup.
On a mis une grosse pièce.
On a une espèce de situation qui est très, très passionnante, et en plus, ça résout aucun problème, puisqu'on envoie tout quand même en Caroline du
Sud.
Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe en Caroline du Sud.
Non.
Ça faudrait le coup d'y aller pour voir qu'est-ce qu'eux sont en train de faire.
Boris Cyrulnik, j'aimerais vous entendre sur cette question qui est centrale dans le livre de Lucie Taïeb, celle des présences invisibles. De ces présences invisibles auxquelles vous êtes sensible et que vous allez chercher à Fresh Kills, les gens qui ont vécu dans ces villages avant que ce soit une décharge, ce qu'il reste peut-être des âmes, puisque vous parlez des âmes des victimes du 11 septembre, et puis vous interrogez la question de recycler les lieux de mémoire. On parlait de Berlin où il y a ce musée qui évoque évidemment Auschwitz. On pourrait parler aussi de la petite ville d'Auschwitz, peut-être aussi de la manière dont ces temps-ci, Auschwitz, on l'a vu, devient un endroit où de plus en plus le lieu de mémoire se transforme en endroit où on va se faire prendre en selfie devant une grille. Qu'est-ce que ce recyclage vous évoque, ce travail de mémoire vous évoque?
Alors, Lucie Taïeb commence par effectivement le musée de la Shoah à Berlin, qui est sinistre, c'est-à-dire qu'il n'y a que des pierres debout. Et la première fois que je l'ai vu, les gamins jouaient, se cachaient, se faisaient peur dedans. Et l'humanité a été réintroduite par les enfants qui sont venus mettre des cailloux pour réintroduire une âme. L'âme des morts était symbolisée par le caillou que le petit-fils, la petite-fille, venait mettre contre une plaque tôle sans grande signification. Alors, en lisant son livre, j'ai été séduit tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des surprises, que des belles formules. Et j'ai pensé à Georges Perec. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est la littérature de l'énigme. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle donne des indices qui indiquent des choses. Et j'ai pensé que finalement, quand on fait de l'anthropologie, on gratte. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des poteries. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des décharges. Toute la culture qui est au fond de terre et qu'on va gratter avec des pinceaux.
C'est une décharge.
C'est une décharge. Et on en fait des musées magnifiques.
Je reviens à la décharge, à Fresh Kills, décharge avant de devenir ce parc. Vous écrivez, Fresh Kills n'est pas une métaphore, c'est un épicentre. C'est-à-dire, quelle est la différence pour vous?
Je voulais essayer d'échapper à une pensée qui me semblait presque trop simple, presque trop mécanique, de dire, voilà, on se débarrasse de nos déchets, on les invisibilise, et Freshkills, c'est ça, en fait. C'est ce qui se passe à Freshkills. C'est une décharge et elle devient un immense parc. Et en fait, l'image de l'épicentre, c'est qu'il y a un centre de violence qui se diffuse. Et que les tremblements, on sait bien d'où ils partent, mais on ne sait pas exactement jusqu'où ils vont. Et dans mon rapport au lieu, c'est aussi toujours quelque chose qui me fascine, c'est la question de savoir quand le lieu s'arrête, en fait. Quand les gens sont à Manhattan, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous hein, dans nos villes, on a tous une décharge à côté, un incinérateur, c'est pas la question de Manhattan, mais quand ils sont à Manhattan et qu'ils se débarrassent de leurs déchets, de l'autre côté, c'est plus leur lieu, en fait.
D'ailleurs, on ne va jamais, de vous
non,
et moi,
on y va pas.
Quand on est touriste, on ne met jamais les pieds à Staten Island, et quand on y va, ce n'est pas pour voir Freshkills.
Non, exactement, exactement. Et donc, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine aussi, c'est cette question de la continuité des lieux, des espaces, et aussi l'idée d'inverser un peu la perspective, c'est-à-dire de partir de Freshkills et de dire, oui, mais en fait, Freshkills, les tremblements se propagent jusqu'à Manhattan. Et cette propreté-là, c'est une propreté illusoire, puisqu'elle suppose de construire des décharges ou de faire exister des décharges. Donc c'est dans ce sens-là.
Ouais. Est-ce qu'on peut la recycler alors, la terre, le sol, pour reprendre le mot, le beau mot de Bruno?
Il faut des milliers d'années pour faire un sol et quelques années pour la faire disparaître. Et la question du sol, certains chercheurs disent qu'on a pour 50 ans de sol, je parle des sols cette fois-ci, ouais, utilisables par l'agriculture.
50 ans, faire un sol devant, 50 ans devant nous.
50 ans de sol encore que l'on pourra utiliser.
Et après?
Ben après,
il n'y aura pas de résilience.
La situation devient un peu plus dure.
Le sol sera mort, il n'y aura pas de résilience.
Donc, c'est le temps
qu'il faut. On sait que c'est le
devenu
du sol, le mot résilience.
Mais oui.
Est-ce qu'il y a une résilience pour la Terre? Est-ce qu'on peut recycler la Terre? Puisque c'est la question qui sous-tend aussi toute votre enquête et tout votre récit.
Oui. En fait, on transforme la décharge en parc parce qu'on ne peut plus rien faire sur la décharge. Parce que c'est le lieu où il y a des plantes invasives, c'est le lieu où il y a des mouettes, et donc on la transforme en parc, et le sol qui est au-dessus de la décharge, c'est finalement une mince couche. Voilà.
Toute petite.
Toute petite.
C'est même pas la zone critique, c'est vraiment un filet.
C'est-à-dire qu'on ne peut rien construire.
Alors, on pourra construire peut-être quand le sol sera stable, ce qui n'est pas tout de suite. Donc, on pourra construire, on pourra exploiter la terre, en faire peut-être quelque chose. Voilà, ça va être.
Vous avez choisi le verbe exploiter, hein, tout de même.
Oui, exploiter parce que ça va être profitable peut-être pour l'investissement pour l'immobilier. En revanche, on ne peut plus la cultiver.
Ce qui est terrifiant dans le livre de Mme Taïeb, c'est que ce genre de littérature sur la destruction, on avait toute une littérature sur des catastrophes, des humains entre eux, et la mémoire qu'il fallait établir pour s'en souvenir. Vous imaginez maintenant l'énergie, le nombre de choses qu'il va falloir inventer, comme beaucoup d'auteurs en ce moment, en Australie, au Canada, en Amérique, en Allemagne, etc., le font, dont Mme Taïeb fait partie, qu'il va falloir pour célébrer, si j'ose dire, mémoriser, pleurer, geindre les catastrophes que nous sommes en train de faire subir au monde. Il y a quelque chose de vertigineux, parce que c'est un devoir de mémoire et en même temps un devoir d'urgence maintenant. Le livre j'ai fait, c'est aussi ça. Tout le monde essaye de comprendre ce tremblement de terre. Les terrestres, ce sont des gens qui sont sur un tremblement de terre. Et même votre sympathique libraire tout à l'heure, il parlait quand même du livre de Carlson, qui a, si je ne me trompe, presque 60 ans, si je ne me trompe, et qui annonce exactement les mêmes catastrophes. Donc on voit cette espèce de suspens de l'intelligence humaine pendant 60 ans. Cette catastrophe, elle est connue depuis le livre de Carlson. Qui est le livre
le plus explicite. C'est ça qui est quand même absolument fascinant et angoissant et en même temps beau.
Un livre terrifiant.
Et en même temps beau. C'est-à-dire que tout est là, tout est dans les livres, dans les librairies, dans les bibliothèques, on le sait, on ne fait rien.
Donc il y a l'introduction au niveau de catastrophe, je pense, c'est ça que nous, la métamorphose que nous subissons.
Non, on ne fait pas rien parce que quand il y a une catastrophe, par exemple dans les étoiles, elle tourne et puis un jour, elle se désorganise complètement. Et il faut une intervention, un point précis, et hop, du chaos sort un nouvel ordre. C'est propre du chaos. Mmh. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, et puis tout d'un coup, c'est un rien, c'est un livre, c'est un événement, c'est une personne, c'est un phare, et tant que ça, une nouvelle direction se met en place. Et ça va durer l'éclair de 20 000 ans, 100 000 ans.
10 000. Ah oui,
on est bon. Ça va. Et ben voilà. Et ce sera le mot de la fin, Maurice Cyrulnik. Mais là, vous venez de remettre un petit peu d'optimisme et d'enthousiasme. Vous voyez, un livre, quelqu'un, et ça peut durer, mais alors des milliers d'années. Fresh Kills. Lucie Taïeb, c'est aux éditions La Contre-Allée, c'est absolument remarquable. On arrive à la fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé, Boris Cyrulnik, Bruno Latour, Lucie Taïeb, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours, pas de grande librairie la semaine prochaine, retour dans 15 jours, d'ici là vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur le site France.tv, vous pouvez également l'écouter en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast et puis vous connecter sur les fameux réseaux sociaux. Maintenant, répondre à la question qui va vous être posée et puis repartir, si vous avez la bonne réponse, avec tous les livres de nos invités. À très bientôt, bonne lecture et à dans 15 jours. Merci. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.